Le lendemain matin, il se réveilla tôt et mal fichu. En entendant sa voix rugueuse, alors qu'il passait la commande de son petit déjeuner, il comprit qu'il était enroué et qu'il serait vite aphone s'il n'était pas rapidement pris en charge. Comme en post-scriptum de sa commande, il demanda qu'on fît venir un médecin et remplaça son thé flowery orange pekoe par un verre de lait chaud sucré au miel et aromatisé au thym. Dans la foulée, il prévint son frère. Le médecin ne sut proposer rien d'autre qu'un antibiotique aux effets lents. Antoine arriva avec le docteur Dickinson, ORL, qui fit une prescription hors norme, mais qui se révéla efficace. Vous mâchouillez une tranche de gingembre pendant 3 minutes et vous l'avalez. Comme c'est un cas de force majeure, do it twice. En fin de matinée, Fabrice avait la gorge dégagée. Il dut promettre de porter une écharpe dès qu'il sortirait. Pendant ce temps, Nadine de Rothschild se trouvait dans une librairie de la rue du Général Leclerc pour y signer son livre Les Bonnes Manières. Elle, qui s'appelait Jeannette et était devenue baronne par son mariage, se sentait en banlieue comme un poisson dans l'eau. Une autre librairie de la même rue avait eu la même idée en faisant venir Anton Mounen, auteur du cultissime Petit Bréviaire du snobisme. Son discours trouvait un écho favorable chez ceux qui se disaient des réprouvés. Le snobisme est une contre-culture à rapprocher de l'underground, du punk, du décalé. Provocation, protestation. C'est un art de vivre pour sortir du troupeau et toujours être une exception. L'événement de la lecture de la recherche s'affichait dans les kiosques. Sur toute sa une, Libération offrait comme en poster une photo noir et blanc de Marcel Proust avec un seul mot « recherché ». C'était un de ces jeux de mots qui avait fait la réputation de ce quotidien, renvoyant au titre de l'œuvre de Proust, à son style, à l'engouement qu'il provoquait, le tout en forte résonance avec l'appel policier à retrouver un dangereux individu. Le journal offrait un copieux arrêt sur image, pratiquement à mi-chemin. L'expérience menée méritait qu'on soufflât et qu'on réfléchît à ce qu'elle avait de particulier. Un public, considérant dans sa plus grande part Proust comme compliqué, abscon, mais magique, accédait à deux mondes, celui des initiés et celui de la haute société. À l'horizon, un paradis pas tout à fait perdu. Peut-être pas inaccessible. S'il fallait rendre un hommage, c'était à ces spectateurs se jetant sans complexe dans une œuvre qui leur échappait jusqu'alors. Sous le titre Marcel, les ortolans et nous, le directeur de ce même journal, ancien Normal Sup, s'appuyait sur une longue citation du côté de Guermantes pour tenter d'expliquer la fascination que Proust exerçait depuis quelques mois. Il écrivait et commençait par Proust à gagner le droit des cités. Les privilégiés qui seront ce soir à Créteil pour une énième prestation de Fabrice Pelletier, qui a étonnamment fait surgir à la recherche du temps perdu dans le quotidien troublé des Français, devront être particulièrement attentifs au passage suivant de l'œuvre au programme où on peut y lire. En peu de dîners, j'assimilais la connaissance de tous les amis de mes hôtes, amis auxquels ils me présentaient avec une nuance de bienveillance si marquée comme quelqu'un qu'ils auraient de tout temps paternellement préféré, qu'il n'est pas un d'entre eux qui n'eût cru manquer au duc et à la duchesse s'il avait donné un bal sans me faire figurer sur sa liste. Et en même temps, tout en buvant un des ikems qu'en recelaient les caves des Guermantes, je savourais des ortolans accommodés selon les différentes recettes que le duc élaborait et modifiait prudemment. Cependant, pour qui s'était déjà assis plus d'une fois à la table mystique, la mendication de ces derniers n'était pas indispensable. De vieux amis de M. et Mme de Guermantes venaient les voir après dîner. En cure-dent, aurait dit Mme Swann, sans être attendue, et prenaient l'hiver une tasse de tilleul aux lumières du grand salon, l'été un verre d'orangeade dans la nuit du petit bout de jardin rectangulaire. Tout y est, poursuivait le journaliste. L'accès à un univers envié, ne pas être un d'entre eux, mais partager leur existence. Le luxe, avec les ikems. À écrire d'ailleurs, si Proust m'autorise un conseil, sans majuscule, ou sinon sans S. La tradition, avec les recettes à modifier prudemment. Un monde qui ne survit qu'en évoluant sans heurts. Le chic transgressif avec les ortolans interdits de consommation, mais savourés, même si à l'époque ils n'étaient pas proscrits. Un verbe recherché, superbe et mystérieux, qui a jamais usé du mot manducation, action de manger. Mais aussi sa modernité, avec la canaille dite « venir en cure-dent ». Les valeurs éternelles, pas de boisson sophistiquée, une orangeade. En post-scriptum, le signataire de cet article faisait un mea culpa en regrettant l'ironie des premières réactions de son journal, qui n'avait pas pris la pleine mesure du phénomène Proust-Pelletier. Suivaient des articles sur l'écrivain, le divin Marcel, un rêveur qui fait rêver. Sur son interprète, un honorable sans-papiers. Une mémoire phénoménale. Un phénomène sans histoire. Sur l'œuvre, pourquoi vous n'avez pas encore lu Proust? Les raisons comparées de l'attirance et du rejet qu'elle provoque. La voix de Fabrice avait droit à son analyse. Les voies et moyens d'une voix. Comment subjuguer sans être ni Delphine Seyrig, ni Michel Simon? Tandis qu'un reportage montrait la diversité des publics présents. L'ensemble s'achevait sur une galerie de têtes de A à Z, où chaque personnage avait droit à une présentation. Albertine, Berma, la Berma, Charlus, Dreyfus, Elstir, Françoise, Guermantes, Hugo, Israël, Jupien, Kant, Léonie, tante Léonie, Morel, dit Charlie, Norpois, Octave, Parme, princesse de Parme, Quillou ou Quillou, diminutif de Montesquieu, Rachel, Saint-Loup-en-Bray et Swann, Théodore, Uzès, Verdurin, Wagner, Xénophon, Jurbel et Tief, princesse, Zéphora.